Bienvenue à toutes et à tous dans Echo, un podcast qui met en lien l'histoire de la musique et la neurocognition. Vous êtes avec Clem et aujourd'hui, dans cette première édition, je reçois Edwige, une experte en sciences neurocognitives, pour vous parler d'un sujet passionnant. La transe musicale, ou comment la musique peut altérer notre état de conscience.
Oui, c'est un sujet que j'avais très hâte d'aborder, parce que déjà, la musique a toujours été centrale dans ma vie, puisque venant d'une famille où la pratique musicale nous a toujours reliés et étudiant en psychologie, j'avais envie de pousser un peu plus loin les mécanismes sous-jacents des bienfaits que peut apporter la musique, notamment la thérapie par la transe musicale.
De mon côté, j'étudie en musique et la musique électronique me passionne. J'ai souvent vu des personnes entrer en transe lors de concerts et me demandent qu'est-ce qui se passe concrètement. Mais qu'est-ce que la transe d'abord ?
Alors, Antoine Bieuille définit la transe comme un état de conscience modifié qui fait perdre au sujet leurs repères en bousculant leur sens et leur façon de voir le réel. Mais attention, il ne faut pas confondre transe et hypnose car l'hypnose c'est une technique qui induit délibérément la transe par suggestion.
Je vois. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, car on peut retracer à travers l'histoire et les cultures des rituels qui visent à engendrer un état second de conscience, où la musique joue un rôle central, que ce soit par le chant, les percussions ou la danse synchronisée. Jusqu'à aujourd'hui, on dirait que cette tradition ancestrale a suivi l'évolution de la technologie avec les rêves qui ont tout l'air de rituels modernes. Alors, quand est-ce que l'humain a-t-il commencé à entrer en transe et pourquoi ? Jusqu'à il y a 4500 ans, les chamans utilisaient des instruments percussifs pour entrer en transe. Pour eux, la musique était un cadeau des dieux et la transe permettait d'entrer en contact avec eux. L'instrument devient alors l'objectivation d'une entité au-delà du réel, c'est-à-dire la représentation physique d'un concept abstrait. N'oublions pas que des substances psychoactives étaient utilisées, mais nous y reviendrons plus tard. As-tu des exemples d'utilisation de la transe plus moderne ?
Oui, les états de transe peuvent aussi s'observer lors de la méditation, comme la vocalisation répétitive. En effet, une séance en ligne de 10 minutes de chant collectif augmente la dissolution de l'ego, c'est-à-dire une perte d'identité subjective. En revanche, ce phénomène se produit principalement chez des personnes déjà expérimentées dans le chant. De plus, la familiarité joue aussi un rôle important sur le sentiment de pleine conscience, l'anxiété ou la connexion sociale qui permettent d'entrer en transe. Donc, l'entrée en transe dépend beaucoup de l'expérience et aussi de la familiarité.
Ça fait du sens. Dans mon expérience dans les rêves, en tant que travailleur social, artiste et consommateur, c'est vrai que j'ai remarqué que les personnes qui avaient l'air les plus profondément affectées par la musique et se disaient transformées étaient des initiés.
Des chercheurs ont justement identifié quatre composantes centrales, qui sont les 4D, qui favorisent l'entrée dans des états de transe en contexte collectif. Ce sont dance, drums, sleep deprivation and drugs, c'est-à-dire la danse, l'intensité rythmique, la privation de sommeil et la drogue. L'engagement des participants dans chacune de ces composantes a été mesuré, en parallèle d'indicateurs psychologiques comme l'émerveillement, la transformation personnelle, la fusion identitaire et les comportements prosociaux. Et il se trouve que les personnes qui avaient des scores élevés sur les 4D éprouvaient davantage d'émerveillement et lequel joue un rôle de médiateur pour entrer dans un état de transe.
Et est-ce qu'une de ces quatre dimensions a plus d'influence que les autres sur l'état de conscience altéré ?
Oui, parmi les 4D, c'est la danse qui est le prédicteur le plus puissant de l'entrée en transe. Cette transformation subjective favorise ensuite un sentiment de fusion avec le groupe, souvent décrit par les participants comme une solidarité accrue ou une connexion collective. Ces effets peuvent expliquer pourquoi certaines raves fonctionnent comme de véritables rites modernes de cohésion sociale.
Ça résonne encore une fois beaucoup avec mon vécu. Ça m'est déjà arrivé quelques fois de rentrer en transe, en rave, et c'était quand j'aimais énormément la musique qui jouait et que le reste du public aussi, ce qui rendait le moment mystique, comme en dehors de l'espace et du temps. Mais comment expliquer tout ça autrement que sous le prisme psychosocial ? En sais-tu un peu plus sur ce qui se passe dans le cerveau dans ces moments-là ?
C'est vrai que ces phénomènes restent difficiles à étudier scientifiquement. La plupart des données proviennent de rapports rétrospectifs comme le tien et d'auto-questionnaires dont la fiabilité peut être affectée, notamment lorsque les participants ont consommé des substances psychoactives. Cela limite donc l'objectivité et la précision des analyses. Jusqu'à aujourd'hui, la science ne permet pas d'étudier des cas comme cela, car pour reproduire le contexte des raves, il faudrait imposer une prise de drogue, ce qui pose des problèmes éthiques. En dehors du contexte des raves, plusieurs mécanismes cérébraux ont été identifiés pour expliquer comment la musique induit un état de transe. Déjà, le cerveau, il adore les motifs réguliers. Plus un motif revient souvent, plus il devient fluide à traiter. Cette fluidité cognitive réduit donc la charge mentale. Et on peut dire qu'elle permet une sorte d'immersion progressive dans la musique.
L'attention semble donc être centrale dans la transe musicale ?
En effet, dans un état de transe, l'attention est dite intériorisée. Cela va s'expliquer sur le plan électrophysiologique par une augmentation des oscillations θ et α pendant un état de transe. Ce sont les ondes les plus lentes qu'on retrouve globalement en sommeil lent profond, pour te donner une idée. Donc on a moins de vigilance externe et davantage une forme d'attention intériorisée. C'est un mode de conscience interne plus profond, centré sur les sensations et l'état corporel.
Donc que se passe-t-il dans le cerveau pendant la transe musicale exactement ?
Alors, les données d'imagerie cérébrale montrent une réorganisation temporaire des réseaux neuronaux. L'activité du réseau du mode par défaut, un réseau impliqué dans la conscience de soi et le traitement autoréférentiel, se trouve réduite. On retrouve donc moins de pensées tournées vers soi et une baisse du contrôle interne. En combinaison avec l'attention intériorisée provoquée par les ondes θ et delta, cette baisse du traitement autoréférentiel permet un état plus sensoriel et plus focalisé.
D'accord.
En parallèle, les régions auditives, motrices et attentionnelles deviennent davantage synchronisées. Cette configuration indique un renforcement du couplage sensori-moteur, c'est-à-dire une focalisation accrue sur le rythme perçu et sur l'expérience présente au détriment des pensées internes. Autrement dit, le cerveau semble se mettre en mode de traitement prioritairement orienté vers la stimulation rythmique.
Et est-ce qu'il existe un style musical favorisant l'entrée en transe ?
Oui, selon le genre musical, le cerveau ne réagit pas de la même façon, et certains styles sont naturellement plus propices à des états proches de la transe. Certaines musiques répétitives, comme la psytrance, ont tendance à augmenter les ondes θ et delta, qui sont associées à des états d'attention détendus. Par ailleurs, le cerveau se synchronise plus fortement à des tempos autour de 1,6 Hz. C'est un tempo qui est typique des musiques électroniques hypnotiques. À ce tempo, le sentiment d'unité est plus fort, ce qui est une des caractéristiques de la transe musicale. Ce lien n'est pas direct, il existe d'autres facteurs comme la personnalité, l'attente, la sensibilité à la musique qui entrent en jeu pour entrer en transe.
Donc si je comprends bien, la transe musicale résulte d'un ensemble de mécanismes. Répétition et fluidité cognitive, synchronisation neuronale, du tempo et du style musical, mais aussi des variables individuelles comme l'expérience ou les attentes. Ces facteurs expliquent scientifiquement comment la musique ou même la vocalisation répétée peut modifier la conscience, que ce soit dans les rituels, la méditation ou dans les rêves.
C'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais d'un effet presque cathartique des rêves. Je voulais donc maintenant parler des applications thérapeutiques de la transe musicale. Depuis plusieurs années, les études sur la transe enrichissent les applications thérapeutiques via l'hypnose, la méditation et certaines modalités de musicothérapie. Par exemple, la transe musicale peut être intégrée à des dispositifs collectifs de prise en charge de la souffrance. Une étude sur une communauté religieuse algérienne montre qu'ils utilisent la musique pour réintroduire la souffrance dans un cadre partagé. La dimension rituelle permet une mise en circulation de l'affect qui va être soutenue par le rythme et la présence du groupe. C'est une forme de soin collectif où la transe facilite la reconfiguration du sens attribué aux expériences difficiles. On peut donc parler de thérapie culturelle.
Donc pour soigner, la musique est comme un outil d'ancrage pour les émotions ?
Oui, c'est ça. En effet, la musique permet une entrée en état de transe chez certains patients. Ainsi, ils ressentent plus de relaxation, de focalisation attentionnelle et sont plus réceptifs aux suggestions thérapeutiques. Cependant, une adaptation individualisée est nécessaire. L'efficacité dépend beaucoup du profil du patient, de son état émotionnel et de ses besoins. Une stimulation musicale inappropriée, par exemple trop dense ou trop rythmée, peut interférer avec le processus plutôt que de le faciliter.
Donc ces recherches actuelles montrent que la transe musicale n'est pas seulement un phénomène individuel, mais peut participer à des dynamiques thérapeutiques collectives ou cliniques, à condition que son usage soit contextualisé et ajusté. C'est vraiment un sujet passionnant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre pan de la recherche contemporaine, les liens entre musique, psychédélique et état modifié de conscience. De récentes études montrent que dans les thérapies assistées par psychédéliques pour traiter les dépressions les plus sévères, la musique est considérée comme un élément essentiel de l'expérience. Les psychédéliques vont venir renforcer cet état de transe. Tout comme la musique, ils stimulent fortement le système sérotoninergique et particulièrement dans les régions associatives qui traitent la structure musicale, les émotions musicales, la mémoire auditive et l'intégration sensorielle, comme les régions préfrontales, pariétales et temporales. Ainsi, par synergie neurochimique, l'activité cérébrale devient plus sensible à l'entrée en transe et donc à la suggestibilité thérapeutique.
Donc, ce que les rituels chamaniques faisaient avec des tambours, les raves le recréaient grâce à une combinaison de musique répétitive, de stimulation sensorielle intense, de cohésion de groupe et parfois de substances qui stimulent précisément les systèmes impliqués dans la perception musicale.
La trance musicale a donc traversé les cultures depuis les chamans jusqu'aux raves. Depuis des siècles, il est ainsi observé l'apport thérapeutique que peut avoir la musique. En effet, par ses qualités d'exacerbation de l'introspection, ses effets hypnotiques, la musique nous fait entrer dans une autre dimension de notre conscience qui pourrait, on l'espère, aller jusqu'à nous raccorder avec nous-mêmes. Cependant, il est aussi important de souligner l'impact de la personnalité, des goûts musicaux et de l'expérience musicale de chacun sur la possibilité d'entrer en transe. Ainsi, l'utilisation de la transe musicale est encore une approche très contrôlée dans le milieu thérapeutique, mais les recherches futures pourraient permettre d'élargir les possibilités d'induction de cet état altéré de conscience. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté. À la prochaine fois.